nous laisse, malgré le retard, du temps pour la discussion. Donc, je ne sais pas très bien, on a au moins une demi-heure, je ne sais pas si on a plus de temps que ça. Il y aura un micro-baladeur quelque part. Alors, en attendant que le micro-baladeur arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux, trois questions à la fois, et puis on laissera répondre les intervenants. Par ailleurs, c'est aussi un moment, comme il n'y a pas eu de moment de débat, si des gens qui ont présenté quelque chose durant la journée veulent réagir, ou si vous voulez poser des questions à des orateurs de la journée, c'est aussi le moment pour le faire. Et par ailleurs, je voudrais encore, avant de commencer, vous rappeler deux choses importantes qu'on m'a demandé de vous rappeler. C'est d'une part de ne pas oublier de déposer vos casques à l'entrée, parce que je vous rappelle, ça coûte très cher et on vous sera très reconnaissant si vous les laissez en sortant. Deuxième élément important, c'est de vous rappeler que demain, on commence à 9h avec Anne-La Gerval qui est en train de prendre des notes très, très consciencieusement pour faire le résumé de cette journée à commencer les travaux de demain. Voilà, donc on va commencer maintenant les questions. Le mieux, c'est de lever la main si vous avez quelque chose à demander, des précisions, des commentaires.
Okay, thank you. I must confess I have a question not to the panel but to Nienke. When you were talking about all these international and regional courts and trying to figure out why there are more women in some courts and less women in others, I just wonder, could there be a connection between the importance of the courts and the non-importance? Because with the International Criminal Court, well, it was considered to be an achievement, but who is punished there? What cases go there? It's ex-Yugoslavia, it's Africa. So, well, I think it's not so interesting for the Europeans to sit on that court. I'm just wondering.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On répond.
Okay, well, thank you for the question. It's an interesting point whether the importance of the court affects sort of who gets nominated and selected for a court. I would, maybe it's because I teach international criminal law, so I think international criminal law matters, and I think individual accountability for mass atrocity crimes should matter for everyone, and perhaps even that it should matter for everyone, and you know, given that mass atrocity crimes have taken place in Europe, you know, both recently and not so recently, I would think that it would be important to be involved in the development of international humanitarian law. But that said, I think that it may have a role in the sense that states may choose which courts they think are most important for them and where they want to play different kinds of, have different kinds of influence. So I think it's interesting that the US nominated a woman to the ICJ, but I don't know what that says about whether they think it's an important court or not an important court. So I'm not sure. I'd have to think more about that question overall, but I don't think I agree that the ICC is, you know, an unimportant court. And if it is important, then why would, for example, African countries nominate women to it when, if for some reason men are more important on important courts? I don't know. It's an interesting question. Thank you.
Est-ce que vous avez encore une question là-bas?
Thank you. My name is Majda Halilović. I'm from Bosnia, Sarajevo. And we are working with DKAF on research regarding impact of gender in judiciary in Bosnia. It is first of that kind, and we are so happy to be here because this conference is extremely informative for us. What is interesting in Bosnia, and I'll just share one of the findings from this research, is that we have high percentage of women judges, 64% in Bosnia. And you would think that is seen as a positive development. However, it is not, especially by male judges that we interviewed. They see this as a rather negative phenomenon, and they use this as a way and as a fact to kind of undermine the whole profession. They say that when we ask them why there are more women in the profession, some of them, respectful judges, say that this is because it is easy job, because it is not hard physically, because women go and choose this profession because they want to be dominant in the world and they're not dominant at home, and this is the way to compensate. So we think this is a really kind of interesting thing, and for kind of all of us who think that increasing number of women in judiciary in doesn't necessarily mean it can actually raise questions once that happens, and that there might be attempts to actually undermine the profession. Thank you.
Est-ce que quelqu'un veut réagir des gens qui ont participé ce matin ou... non, j'ai...
Sociologically, I consider it again a sociological problem. And the whole idea reflects again the typical male psyche. It looks at a positive event of increased women on bench in a negative manner. It wants to deprive women of anything that they can feel proud of. It is denigrating womankind. I do not know what kind of women produce such men. I really do not know.
J'ai l'impression que tout le monde est particulièrement fatigué après une journée très riche. Donc je ne sais pas s'il y a encore l'une ou l'autre question. Ah, il y a encore une question là-bas. Voilà.
Merci. Je m'appelle Mary Mishram, je suis doctorante en droit international. J'avais plus qu'une question, finalement un commentaire ou une remarque. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose qui m'a manqué, que j'ai un peu retrouvé chez Judith Resnick, professeur Resnick. C'était la question de l'intersectionnalité. On a beaucoup parlé des femmes et des hommes, mais on n'a pas vraiment défini ce que c'était une femme. Et on a fait comme si toutes les femmes étaient les mêmes et que leur agenda, en tant que juge, était vraiment seulement informé par leur genre et pas par beaucoup d'autres choses que leur genre. Hein. On en a aussi un peu parlé avec les cours internationaux, où on voit que les femmes viennent d'autres pays que du Nord, et que donc ça peut aussi avoir un impact. Donc je ne sais pas si certains des orateurs d'aujourd'hui voulaient un petit peu parler là-dessus, parce que ça m'a un petit peu manqué en fait. On est beaucoup plus qu'une femme en général, on est même très peu que ça quand on joue son rôle dans son métier, je crois. Voilà, merci.
Alors on a une experte de l'intersectionnalité à table, donc je vais lui passer le micro.
I won't say I'm a big expert on it, but I will just share an experience that I probably shouldn't share. This commission has to review people's CVs, and you get numbers of how many books they published and so forth. And we had one commission, it had many candidates in it, and one of the people was a female person and had a name that I would identify as Arabic. And this person's record was a lot better than some of the other candidates that were being talked about seriously. And so I finally said, I'm not, the field was natural science, so I'm not a natural science. I finally said, well, how about this person? And they said, oh, that's someone with a lot of promise. But this person had 63 publications in 10 years. So I thought she'd already revealed that. But it was clear that this was a bridge. This was filling in the Flemish holes in a commission. They were required to do something about gender, so they were all taking that very seriously. But the next bridge to think about ethnicity crossing with, I mean, for me as an American, this legislation I talked about has an interesting history. The 60s legislation was about civil rights for African Americans. And women, in a very interesting political story, managed to get women in that same piece of legislation. So that the Americans have been concerned about multiple discriminations and intersections of discriminations for a longer time, maybe, than Europeans. But I find it very frustrating that universities have to have a gender plan and they don't manage to say, well, wait a minute, we have some other issues around discrimination at the universities as well. And so we should look at gender in an intersectional way and maybe benefit many, many more people than we do with just a gender action plan. Maybe one fight at a time is all we can do, but I hope that it can be a fight that reflects the diversity that we have in a place in the center of Europe.
Oui, merci. Je voudrais simplement vous apporter une perspective plus latino-américaniste sur le problème. En Amérique latine, les mouvements féministes ont, en termes institutionnels, et la chose est importante, ont été assez forts et ont eu une série d'acquis, notamment législatifs, et c'est sans doute pas pour rien qu'on a des législations de quotas et certains gouvernements paritaires. Mais le genre est contesté en tant que catégorie d'analyse, et en particulier par des féministes ou des mouvements de femmes, ce qui n'est pas tout à fait pareil, qui contestent les féministes institutionnelles, donc celles qui sont dans les institutions. Et ce sont d'une part les féministes autonomes qui ont organisé une série de rencontres féministes, mais par le bas, non pas organisées par les Nations Unies, rejetant la dépendance vis-à-vis des financements internationaux ou nationaux ou vis-à-vis des partis politiques, d'une part. Et puis ce sont les mouvements de femmes indigènes ou afrodescendantes qui ne se reconnaissent pas nécessairement comme féministes, mais qui s'organisent. Finalement, quand on regarde leurs revendications, on peut dire qu'elles sont féministes. Bon, et alors, qu'est-ce qu'elles mettent en cause là de nouveau? C'est qu'en fait, le féminisme institutionnalisé a littéralement propagé, sans doute sans le vouloir, une vision des femmes populaires ou indigènes comme victimes, comme traditionnelles, pas éduquées, qui n'ont pas de voix. Mais ce faisant, on ne leur donne pas non plus la voix. Et ce qu'elles réclament finalement, c'est justement cette intersectionnalité, c'est-à-dire la prise en considération de l'entrecroisement, pas simplement l'addition, mais de l'entrecroisement des inégalités, des discriminations à la fois de classe, d'ethnie et homme-femme. Et donc ça, c'est bon, si le terme intersectionnalité n'est pas nécessairement utilisé en tant que tel, très clairement, ça devient une revendication qui est tellement forte qu'elle finit par contester la notion même de genre en tant que tel.
Thank you very much for your question. I think it's a very important one, and I'm sure that we are going to have papers tomorrow that will explicitly address this. I hope that my paper will explicitly address this, in that I look at gendered experiences, and so not the one woman's experience. I just wanted to also add to comments made by our panel, the one problem at a time, and I would like to challenge that way of thinking using South Africa as an example, where transformation in the constitution was explicit for the judiciary on both gender and racial grounds. However, we have seen much more of a focus, and as a result, much more transformation in terms of racial transformation of the judiciary and not gender transformation. So there you get black women becoming not women that we were thinking of and not black people that we were thinking of. So I think that we do need to take a more holistic approach if we're going to use identities and realize that we use them as a shorthand and not as encapsulating or a descriptive way of someone's whole experience. So thank you for your question.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je voulais juste ajouter que c'est un défi ici aussi. Bon, on est plusieurs ici dans cette salle ou qui étaient dans cette salle, par exemple, c'est un exemple que j'ai déjà donné souvent, à participer au Conseil bruxellois de l'égalité des femmes et des hommes. Et c'est assez étonnant. Bon, les gens ont été nommés sur base de différents quotas, donc venant à la fois des partenaires sociaux, du monde féministe et du monde académique. Ce qui est intéressant, c'est que cette logique de quotas a produit que, bon, il y a des quotas linguistiques, c'est toujours très compliqué en Belgique, il y a des quotas de genre, parce que ça s'applique aussi à ces conseils consultatifs, mais quand on regarde la composition de ce comité, on est tous blancs. Et donc, visiblement, on ne représente pas la réalité de la région de Bruxelles, ce qui est un problème majeur qui, visiblement, n'a effleuré personne dans le cabinet ministériel qui a été chargé des nominations. Et donc, ce problème-là se pose également ici, il ne se pose pas partout, et pour revenir au thème de la conférence, se posera probablement aussi dans la composition de la magistrature. Donc, si on rentre dans les arguments de représentativité qui seront développés demain, c'est la représentativité jusqu'à quel point et quels sont les critères qui sont à prendre en compte en termes de représentativité.
Par rapport à ça, moi je vais peut-être vous paraître un peu réactionnaire, mais je suis plus vieille. Et donc par rapport à ça, il y a 30 ans, quand on allait vraiment se battre parce qu'il n'y avait rien, c'était l'argument qu'on nous opposait. Oui, mais alors, si on met la moitié de femmes, il faut aussi mettre des noirs, des blancs, etc. Et c'était l'argument pour ne rien faire. Et donc par rapport à ça, moi je serais très prudente. Les femmes sont la moitié de l'humanité. Je veux dire, alors on peut dire, moi je veux bien effectivement qu'on ajoute à cette représentation moitié-moitié une autre forme de représentation. Mais ce type d'argument, mon expérience m'a montré que c'était un frein total à toute discussion ultérieure. Voilà.
I just wanted to also respond to the question about intersectionality. I think the question of intersectionality that was asked is a very important one. And I guess the way, I'm not an essentialist either in the sense that I don't think that all women are the same, and a woman growing up in India has a very different experience from a woman, and a woman growing up probably in certain parts of India or with a certain social class or, you know, has a very different experience, you know, from a wide variety of women in the US, you know, so. But I guess the way I think about it is that part of the feminist project is also to open our eyes to who else is invisible. So you can sort of see it as a door opening as opposed to one closing. And I think your point is extremely important and valid. And I think one way to get at it is to see that the feminist project is one which can open our eyes to other people who are invisible, you know, in certain contexts. So, but thank you for asking that question. It's important.
Je me nomme Marie-Claire Bello. J'entends les arguments. Je vais aussi répondre à la question de l'intersectionnalité. J'entends l'argument que c'est une excuse pour ne rien faire, mais ce que je connais de l'intersectionnalité, c'est modérer ma connaissance, c'est qu'aux États-Unis, le concept d'intersectionnalité a été créé, entre autres, pour identifier l'invisibilité de certaines personnes. Donc, dans des programmes d'action positive, de discrimination positive pour l'embauche de professeurs dans les universités, la catégorie femme avait des effets racistes. Alors, on embauchait des femmes blanches. Dans la catégorie de la représentation ethnique, ou culturelle, socioculturelle ou ethnique, on excluait les femmes. Alors, on embauchait des hommes de couleur ou des hommes de différentes cultures. L'intersectionnalité est un concept qui a été créé précisément pour démontrer, pour rendre visibles ces femmes de différentes cultures qui ne rentraient pas dans les différentes catégories ou qui étaient laissées pour compte par l'effet soit du sexisme ou du racisme qui excluait d'un côté ou l'autre. Alors, moi, je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce que je comprends que ça peut conduire à de la paralysie, ce qui n'est pas volontaire, ce qui n'est pas recherché, mais en même temps, il faut voir cette invisibilité pour s'assurer qu'on permet à un très grand nombre de personnes d'être présents. Alors, l'intersectionnalité visait précisément à rendre visible. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est embêtant de ne pas tenir compte de ces contextes-là.
Thank you, Judith Resnick. I was trying to actually understand more about, and it this intersects with the intersectionality conversation to some extent. The comfort in the conversation about the idea of quotas and the invocation of third generation quotas, coupled with some of the data about the lack of women in various places. And so I'm wondering, not to import US experiences, but to ask about how and what forms of quotas are being taken up in what way that is successful, and how they're being mediated or implemented, which the Gender University Plan evoked this, in part, this question. I know that there's been, as there was a suggestion of a European board-based quota, there was a great pushback from the UK, which rallied some other countries in this way. And so I think the larger question is, in terms of remedial engagement, to see, we look at the picture and we say there's something wrong with it. Then the question is, how do we try to get that, the wrong, fixed in egalitarian terms that are inclusive and expansive? And then one mechanism that has great attraction from afar, at least, is sometimes parité, 40-60 quotas. And here I am looking at a group of countries that in some level embrace and in some level are in awkward relationship with these. So I would invite conversation and comments from others, the panelists, of course, on what they see as the utilities of either the infrastructure of invoking the 40-60 parité, whether it's implemented or not, or whether there is a view that there is a risk downside negative quality to having that as a framework, and or whether there are alternative frameworks that are either more or less successful. So it's a question.
Well, it's a new ball game, I think. This experience with the, well, not in, well, there's the, I'm working in Belgium, and sometimes the capacity of state to make good on what is legislated is lacking. I think that's maybe about as diplomatic as I can say it. So indeed, this quotas for the advisory councils, and Michelle might be able to help me on this, are in place on paper all over the place. But the monitoring of it, and that's why I'm looking at Michelle, so I hope he might say something about that, the monitoring of it has been very, very lax. So no one is keeping track of it, as far as, a year ago I asked around, you know, who's monitoring this and where are the figures on how you're doing on all these boards? Because as you also know that there's a quota on legislative boards, on business boards now in Belgium. So it was with France, has quotas on certain kinds of corporate boards. These two will need to be monitored. So it doesn't make sense to come out with a big stick if you don't have a bureaucratic capacity to follow it up. And it is difficult so in the scientific councils, sometimes there isn't a pool to pick from. So there aren't, so if you say it's 40% and your engineers are only 20% female, then indeed, I think even the biggest fans of equality would say, well, there's maybe a problem here. It doesn't seem just to the citizen to ask for a quota when there is no pool. So the method in the United States of saying you have to look at the pool first and see, you know, what your targets are, so that has its attractions. But here, at least in Belgium, they go for the very big stick, but sometimes they miss the capacity to make it hold for these things that are less visible. These boards are invisible to the general public.
D'autres réactions dans la salle, d'autres avis? Vous avez encore d'autres questions? Alors je propose de se revoir demain à 9h pour la reprise des travaux. Merci beaucoup.
Moi, ces histoires d'intersectionnalité, je refuse de m'en occuper parce que ça implique immédiatement.
Non, mais ça, c'est le gros problème de la structure institutionnelle.
Voilà. Voilà. Immédiatement,